Fréquence Mistral.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral. Je suis en compagnie de Rémi Charpie, président de la Mutuelle de France Alpes du Sud. Monsieur Charpie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec moi aujourd'hui pour évoquer ensemble les annonces du budget de Monsieur Bayrou, notre Premier ministre. J'aimerais vous demander tout d'abord d'établir ensemble un bilan sur la situation actuelle en tant que mutuelle, ce que vous observez, notamment hors antenne, en préparant cette interview, vous m'évoquiez une question de taxes.
Depuis quelques années, les mutuelles de France expliquent et font signer, proposent des pétitions à tous les adhérents mutualistes, aux assurés sociaux, pour mettre en exergue que tous les contrats mutualistes sont taxés. Alors, il y a deux types. Il y a une taxe qui est à hauteur de 14,5% pour les contrats dits responsables et 20% pour les contrats dits non responsables. Donc, ces taxes ont été mises en place en 1998. C'était pour financer la C2S, la complémentaire santé, pour les personnes qui n'en avaient pas. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui la complémentaire santé solidaire. Cette taxe était à hauteur de 1,90%. Elle est aujourd'hui à 14%. Il faut savoir que pour tout le monde, ça représente en gros les deux premiers mois de cotisation. Pour tous les assurés sociaux qui ont une complémentaire santé, ces deux premiers mois vont directement dans le budget de la Sécu. Ça représente en gros 6 milliards d'euros. Et en fait, les mutuelles sont un collecteur d'impôts et transfèrent au service de l'État directement cette somme, mais qui ne rentre pas en compte dans le fonctionnement de la mutuelle. Mais par contre, ça apparaît pour les mutualistes comme quelque chose de très important. Alors, donc tout ce que l'État décide de transférer auprès des assurances complémentaires, ben obligatoirement, ça se traduit par une augmentation de la cotisation, puisque les mutuelles, elles, doivent être obligatoirement à l'équilibre, parce que c'est leur mission, elles dépendent du code de la mutualité française, et elles sont contrôlées par un organisme qui s'appelle l'autorité prudentielle de contrôle et de régulation.
Et du coup, vous parliez d'une taxe à 14% et d'une autre à 20%. Quelle est la différence entre les deux exactement?
Alors, j'ai parlé d'une taxe à 14%, je vais maintenant parler d'une taxe à 20%, qui concerne les contrats dits non responsables. Alors, pour faire la différence entre les deux, simplement, le contrat responsable, il est défini par la Sécurité sociale et par l'État, qui définit un panier de couverture sociale entre ce que prend en charge la Sécurité sociale et ce que doivent prendre en charge les mutuelles. Pour ceux qui estiment que les contrats mutualistes sont trop chers, ils ont la possibilité de souscrire un contrat non responsable. Comme ils ne rentrent pas dans le cadre qui est prévu par le législateur et par la Sécurité sociale, leur contrat est taxé à 20%. Donc ces personnes qui en fait ont peu de moyens et choisissent de moins se couvrir parce qu'ils ne peuvent pas accéder à un contrat responsable qui leur permettrait une plus large couverture sociale, en fait ils sont taxés eux à 20% leur contrat. Donc ça veut dire que moins tu as d'argent pour souscrire un contrat, à plus tu vas payer de taxes. C'est pour ça que les mutuelles de France depuis un certain nombre d'années demandent la suppression des taxes. Parce que si les taxes étaient supprimées, ça veut dire qu'on rend à l'État sa charge, et puis ça diminuerait d'autant le montant des cotisations. Imaginez une cotisation mutualiste qui diminue de 14%. Ce serait quand même pas mal. Alors là, ce que prévoyait le gouvernement en début d'année, précisé pas d'ailleurs par Madame Vautrin, en disant les mutuelles ont anticipé sur les évolutions des coûts en 2025 au-delà de ce qu'elles auraient dû, donc elles doivent de l'argent à l'État. Alors, on ne sait pas encore sous quelle forme ça va être, mais c'est de dire, vous devez 1 milliard, les mutuelles doivent 1 milliard, ça représente 2 points d'augmentation. Les taxes passeraient de 14 à 16% et le risque, c'est la pérennisation.
Donc, si je comprends bien, votre inquiétude, c'est non seulement l'augmentation des taxes qui vous sont imputées, mais surtout l'idée que ça puisse durer dans le temps. En face de ça, une partie de la population estime qu'elle paye déjà assez cher sa mutuelle.
On peut comprendre que pour les personnes, ils se focalisent sur les mutuelles en disant elles ont trop d'argent, regardez ce que ça coûte, elles se gavent. En gros, c'est ce qu'on entend de partout. Et nous, on a beaucoup d'adhérents qui nous interrogent après cette dimension-là. Il faut savoir que dans le code de la mutualité, il existe des obligations de prévoir le fait que la mutuelle pourrait très bien s'arrêter parce qu'elle est en difficulté, parce que pour tout un tas d'autres raisons. Donc pour ça, elle doit provisionner pour pouvoir assurer les prestations qu'elle s'est engagée à couvrir. Donc, ce qui veut dire, il faut prévoir en gros un an et demi de cotisation. Cet argent-là, on doit le laisser en banque.
Et du coup, pour en revenir au constat de la situation actuelle?
Alors, le constat, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une élévation du coût de la santé. D'abord, lorsque le 100% santé a été mis en place, il a permis, en termes de dentaire, de lunetterie, d'audioprothèse, d'être mieux pris en compte. Sur l'idée, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire pour que les gens puissent mieux se soigner. Mais ce 100% santé, en fait, il a un coût pour les mutuelles. Parce que la sécurité sociale le prend en charge environ à 24%, et 76% restants, ce sont les mutuelles. Donc, obligatoirement, les mutuelles ont dû augmenter leurs cotisations. Ce qui fait qu'il y a une élévation de la consommation de soins, qui paraît naturel parce qu'on se soigne mieux, mais là, les mutuelles en prennent en charge. Donc, c'est très bien parce que la population, ça lui permet de se soigner, mais il y a une élévation des coûts. En plus, il y a une élévation des coûts des soins. C'est l'ensemble de cette dimension-là fait en sorte qu'il y a plus de prestations servies. Et comme il y a plus de prestations servies, obligatoirement, ça amène une cotisation supplémentaire derrière.
Vous, face à cette observation, qu'est-ce que vous demandiez exactement?
On demandait la suppression de ces taxes, mais même les assureurs privés le demandent aussi. Donc, ces taxes, on dit, il faut les supprimer. Alors, est-ce que on a des pétitions en ligne? C'est pas toujours bien compris. Il y a des gens qui disent, oui, mais après tout, pourquoi pas? Oui, mais on cotise à la Sécu, mais on cotise deux fois, On cotise déjà sur les salaires, on cotise sur les pensions lorsqu'on est retraité. Et là, on a mis une cotisation sous la forme d'un impôt. Quand on parle de la sécurité sociale, la problématique essentielle, c'est d'abord la question du financement et des exonérations, puisqu'il existe quand même des exonérations de cotisations sociales qui auparavant étaient compensées par le budget de l'État, mais qui maintenant ne le sont plus. Donc comme ça ne l'est plus, ça vient alimenter le déficit de la sécurité sociale. Donc nous, on se dit, là, non, faut arrêter, parce qu'on renvoie tout sur les assurés sociaux, et généralement, qui est exonéré des cotisations sociales? Ce sont les très grandes entreprises qui, par ailleurs, bénéficient de soutien de l'État. Il faut être sérieux, on dit que la question des ressources doit être regardée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les ressources de la sécurité sociale soient basées sur toutes les richesses, et pas non seulement sur les salaires ou sur...
Pour aborder le sujet des déserts médicaux à présent, sur le territoire des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, on observe de grandes difficultés pour accéder aux soins. En fonction de chaque département, c'est différent, mais c'est le cas dans les deux départements.
Oui. Alors, on peut déjà commencer par l'hôpital. Donc, il y a deux situations un petit peu différentes sur les deux départements. Et sur le département des Alpes-de-Provence, il y a vraiment une particularité qui fait que depuis quasiment 2 ans, les urgences sont dans une situation dramatique. Alors, d'abord, il y a un manque de médecins. Donc, ils l'ont exprimé publiquement plusieurs fois à travers des collectifs. Il y a un collectif qui, dans le département 04, fait le tour de communes pour expliquer, avec la présence de médecins urgentistes, la situation dans laquelle ils sont et les risques que ça peut comporter et que ça induira forcément pour des personnes qui vont avoir des pertes de chance en matière de survie selon la situation dans laquelle ils sont et auprès des urgences auxquelles ils seraient dirigés, puisque si on habite à Digne et qu'on est orienté à Aix ou à Marseille, ou à Gap, on augmente les durées de transport, on augmente peut-être les pertes de chance pour certains. Alors, les urgentistes sont des gens très sérieux, qui connaissent bien leur boulot, qui ont même proposé un certain nombre de mises en place d'organisations, dont notamment l'appel au 15. Sauf que là, le 15 est saturé, puisqu'on dit aux gens, ne vous présentez pas aux urgences, appelez le 15 pour être sûr d'être bien orienté, ce qui est une bonne disposition. Mais ça a une double incidence. Quand eux sont en difficulté aussi, ça veut dire que là, il y a des défaillances, quoi. Ce qu'annonce l'ARS en disant, oui, mais on va toujours mieux, on s'arrange. Bon, d'accord. Enfin, la situation s'arrange. Ça s'arrange très petitement. Mais dans tous les cas, on n'est pas encore à un niveau satisfaisant. Nous faisons partie de ceux qui disent qu'il faut maintenir la pression sur l'ARS et les services de l'État pour que les hôpitaux soient dotés correctement en matière de médecins. Donc ça, c'est la première des choses pour accéder aux soins. Pour ce qui est des urgences sur le 05, là, les situations ne se posent pas du tout de la même manière. Et la maison de garde, il y a des organisations qui sont beaucoup plus fluides. Ensuite, en comparaison des deux départements par rapport aux déserts médicaux, on a sur le 05, en nombre de médecins généralistes, c'est bien. Voilà, donc c'est parfait pour les gars pensés. Les médecins généralistes dans le 04, ça par contre, c'est pas le cas. On est en perte de nombre de médecins parce qu'il y a des départs à la retraite, il y a des difficultés de compensation, dans ce qui fait qu'il doit y avoir plus de 3 000 ou 5 000 personnes dans le département 04 qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est pour la partie médecin généraliste. Bon, puis après, il y a d'autres difficultés pour joindre des spécialistes, hein, notamment les dermatos. Alors là, c'est compliqué. Les gynécos, n'en parlons pas selon où on se trouve. Donc, ce qui veut dire qu'il faut s'expatrier. Soit il faut aller sur Grenoble d'un côté, soit il faut aller sur Aix ou sur Marseille de l'autre. Donc, nous, on dit que ce n'est pas parce qu'on est deux petits départements qui nous représentons ensemble que, quoi, envers les 6% de la population de PACA, qu'on doit être relégué et maltraité. Il n'est pas normal de faire tant de kilomètres pour y aller, parce que ça veut dire que ça participe au renoncement aux soins, parce qu'on ne les fait pas, ces kilomètres. Alors, il y a des choses qui s'améliorent un petit peu, mais qui se dégradent par ailleurs.
Il y a aussi, vous venez de l'évoquer, justement ce renoncement aux soins, et peut-être qu'on peut commencer à parler justement du budget qui a été annoncé par M. Bayrou. Parmi les points qu'il évoque, il y a une diminution des aides pour les affectations longue durée. Alors je simplifie, hein, bien sûr.
Oui, pour les ALD. Donc pour toutes les personnes qui sont en ALD, généralement, pour leur affection est prise en compte 100%. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté. Généralement, quand on rentre en ALD, c'est rare qu'elles disparaissent. Affection longue durée, comme son nom l'indique, ça va dans la durée. Moi, je fais partie, j'ai un peu de cholestérol, hein, je suis suivi pour le cœur, etc. Donc, ça va pas s'arranger avec l'âge. Bien au contraire. Donc, ça demande d'avoir un suivi permanent. Alors, il y a des petites affections, puis il y a des affections qui sont plus lourdes pour les ALD. Bon, les ALD, notamment pour toutes les personnes qui ont un certain nombre de cancers. Donc, ce sont des affections qui sont lourdes, qui sont coûteuses aussi, mais qui amènent aussi un certain nombre de soins secondaires ou annexes. Mais il y a beaucoup de ces soins secondaires annexes qui ne sont pas pris en compte. Et donc, déjà, qui sont coûteux pour les personnes qui sont dans cette situation. Et là, ce que propose le gouvernement, c'est de dire, les ALD, il y en a trop. Faudrait les limiter. Retarder le fait de déclencher l'ALD et puis la diminuer au plus tôt possible. Et puis bien voir, bien cerner ce qui ressort de l'ALD ou pas de l'ALD. Donc, ce qui veut dire que là, c'est vraiment une attaque frontale contre une situation de personnes qui sont malades et qui n'auront peut-être plus la possibilité de se soigner correctement. Ou alors, c'est de dire, ah ben, on va transférer sur les mutuelles. Je reviens sur la démonstration de tout à l'heure. Tout ce qui est transféré sur les mutuelles, obligatoirement, les mutuelles vont devoir augmenter leurs cotisations pour pouvoir être à l'équilibre à la fin. Donc, il y a quelque chose qui... Et il y a aussi l'augmentation des franchises médicales. Donc là, tout va doubler.
Donc, oui, c'est ça,
cette participation des franchises, elle va passer de 50 à 100 euros.
Voilà, c'est
par
ça,
personne.
Fait à l'année, du coup.
À l'année. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui... Alors, ça paraît pas beaucoup. On se dit, oh, c'est pas beaucoup, ça. Quand les gens, ils peuvent participer, après tout, s'ils y allaient par leurs propres moyens. Sauf que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça commence à faire beaucoup. On parlait tout à l'heure de renoncement aux soins. Là, à plus les gens en difficulté pour accéder aux soins, de plus en plus sont dans le renoncement aux soins. Lié aux problématiques d'accès à des soignants, on risque de se retrouver vers des situations de plus en plus dégradées et vers au-delà de l'appauvrissement, un renoncement aux soins qui va continuer à dégrader leur santé.
Et puis, il y a aussi une efficience qui est demandée à l'hôpital, une efficience dans leurs achats, par exemple. Votre point de vue là-dessus sur...
Nous, on ne gère pas d'hôpitaux. On laissera plutôt les directeurs d'hôpitaux qu'on s'exprimer là-dessus. Mais ce que l'on sait, on réduit les financements des hôpitaux. Donc, si on réduit les financements des hôpitaux, les directeurs, même les meilleurs, quand ils n'ont plus les moyens de fonctionner normalement, s'ils veulent avoir des budgets qui soient à peu près équilibrés ou essayer de tenter d'y revenir, les hôpitaux sont en déficit, non pas de la faute des gestionnaires, mais des charges qu'on leur transfère ou des moyens qu'on ne leur donne pas pour pouvoir fonctionner. Mais donc, les hôpitaux, ils font quoi? Ils essayent de faire au mieux avec ce qu'ils ont. Bon, on va essayer d'être efficient sur tout ce qui est gestion, achat responsable, etc. Mais ça, ils le sont déjà. Ils savent déjà faire. Ils ont pas attendu une directive du Premier ministre pour faire ça. Ce sont des gens qui connaissent bien leur métier et leur activité. Donc après, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ben, ils vont essayer de tailler dans ce qui se fait généralement depuis un certain nombre d'années. C'est la suppression de lits. On est dans une spirale de l'enfoncement. On met les hôpitaux, les services de soins dans des situations paradoxales. C'est une injonction contradictoire. Faites mieux avec moi, ils peuvent déjà pas faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut se battre résolument contre ça et obtenir qu'il y ait les moyens. C'est pour ça que la question du financement, elle est majeure derrière.
Oui, en effet, et qu'il est important de bien la comprendre. Dans les annonces de M. Bayrou, il évoquait que ce sont des propositions qu'il a fait en concertation avec des partenaires sociaux, des acteurs de la santé et de la Caisse nationale d'assurance maladie. Est-ce que vous avez pu échanger avec des acteurs par rapport à ça?
Comment dire, les groupements mutualistes, notamment la Mutualité française, est un acteur reconnu, qui discute régulièrement avec la Sécurité sociale. On rencontre aussi des élus. Là, on travaille beaucoup, par exemple, avec les deux députés du 05, hein, qui ont une excellente réactivité à nos propositions, qui nous sollicitent dans nos réflexions. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, oui, on rencontre les ministres au plus haut niveau ou les commissions au niveau de l'Assemblée nationale pour expliquer notre point de vue. Mais, comme vous pouvez le constater, depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de consultations qui sont faites. On dit qu'on est écouté, mais il n'y a pas de retour derrière. Le meilleur exemple, il y a le congrès de la Mutualité à Agen. Donc, Madame Vautrin est venue à l'invitation de la Mutualité. Donc, le président de la Mutualité a rappelé de façon très forte, mais très ferme, les objectifs de la Mutualité et le fait que les mutuelles ne se gavaient pas, qu'elles se positionnaient très fortement sur les taxes, alors pas tout à fait sur leur suppression, mais sur une diminution drastique, ce qui était annoncé par les services de l'État, donc là, cette fameuse 2% supplémentaire, là, la recherche des milliards que les mutuelles auraient pris, en disant les mutuelles ne se laisseront pas faire, elles se défendront et elles vont mobiliser parce que les mutuelles sont un mouvement social. Donc les congressistes attendaient avec impatience la réponse de Madame Vautrin. Quasiment, elle n'a pas répondu. D'abord, elle n'a rien répondu sur les taxes. Elle n'a même pas abordé le sujet. Par contre, à sa sortie, une déclaration à la presse, une conférence de presse, je crois. Mais là, elle a dit qu'effectivement, ouais, les taxes, c'était quelque chose qui était dans les tuyaux.
Ah, c'était dans les tuyaux, dans le sens où elle comptait les augmenter malgré tout.
C'est pour ça que les concertations sans pression populaire derrière, ça risque d'être vain. Et c'est surtout que dans ce budget, il ne parle pas des économies réalisables. Il maintient les exonérations, de certains nombres d'exonérations que les grandes entreprises pourraient payer ou d'autres. Donc là, ça, il le maintient, alors qu'il pourrait très bien récupérer une bonne partie d'argent. Ça représente quand même des milliards. Hein. Donc la question politique, elle est réelle, elle est de fond. Si j'avais un souhait à émettre, c'est que cette la loi du plomb dont on parle beaucoup, on avait déjà essayé d'interpeller les élus et tout, plein d'associations qu'il avait fait, sans que ça ait modifié quelque chose. Il y a eu l'artifice de passage de la loi. Bon, je reviens pas avec la motion de rejet qui passe par la commission mixte paritaire, Sénat et autres, et qui permet de réintroduire tout ce qu'on voulait pas mettre derrière, et puis surtout d'éviter tout débat national. Et là, une jeune femme, elle fait une pétition qui reprend en gros tout ça, et en 10 jours, 15 jours, 1,7 million, 1,8 million de signatures.
Et hier soir, 1,9 million.
1,9 million hier soir, là. C'est fabuleux. Donc, le débat public revient. Eh bien, s'il pouvait y avoir le même engouement pour la question des taxes, pour la question de la santé, là, on aurait une autre écoute. C'est le rapport de force qui est nécessaire pour faire modifier le gouvernement. Autrement, il n'écoute rien.
Donc, est-ce que vous auriez envie d'appeler à une mobilisation, justement?
Ah, ben, bien sûr, oui. D'autant que ça fait partie de nos valeurs. Nous sommes des humanistes. La santé, c'est une question éminemment politique. C'est pas une question de gestionnaire seulement, parce que c'est ça que nous propose Bayrou. Donc, nous, on dit non. Voilà, il faut faire un peu plus fort. Alors, c'est vrai que s'il y avait un peu plus de soutien populaire derrière, là, ça serait quand même beaucoup plus fort. Et dans les mois qui vont venir, là, à la suite du congrès d'Agen, il va y avoir des propositions qui vont être avancées, qui vont demander à être soutenues. La Mutualité demande l'organisation d'états généraux de la santé, qui va s'élargir au plus large, avec des questionnaires, les portées auprès de la population, etc. Donc ça, c'est pour prévoir d'interpeller les futurs candidats à l'élection présidentielle. Mais ça va être aussi utile pour les prochaines municipales. Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc, si on a un mouvement populaire fort, oui, effectivement, derrière, comment il y a des choses qui peuvent bouger?
Justement, vous évoquez qu'il y a d'autres solutions possibles, et notamment, vous venez d'en parler, par exemple, justement, ces fameuses exonérations de cotisations.
Mais il faut qu'elles cessent. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres solutions auxquelles vous avez pensé?
On ne présente les questions de la santé que comme des dépenses. Le gouvernement, quand il prépare le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale, il fixe un cadre. Alors, l'objectif de dépenses nationales d'assurance maladie, c'est pas plus de 2,3%. C'est déjà en dessous de l'inflation. Donc, en dessous de l'inflation, ça veut dire qu'il faut déjà réduire par rapport à cette année, sans tenir compte de l'augmentation d'après. Il a beau nous dire, Berrou, qu'il n'y aura pas d'inflation l'année prochaine, ça, je ne sais pas s'il est dans le bar de café ou s'il faut l'appeler Madame Irma, mais ça m'étonnerait qu'il puisse être aussi catégorique en la matière. Donc, il ne peut pas y être. Ce cadre qui est fixé de réduction en permanence, on est dans un simple rôle de gestionnaire, mais qui ne prend pas en compte les besoins de la santé. Il faut demander aux gens de moins se soigner. Alors, on peut leur demander de mieux se soigner. Bon, ça, il faut laisser le soin aux praticiens de faire. Mais nous, on dit, là, sans doute, un certain nombre d'économies qui sont à faire. Voilà, des économies d'échelle et puis de peut-être, voilà, dans la prescription, être plus efficient. Ça fait partie des choses que l'on préconise et qu'il est peut-être possible de faire.
Il y a également des propositions, justement, à ce propos-là de prévention.
Donc, l'État dit, la prévention, c'est primordial. Il faut absolument que l'année 2025 soit l'année de la prévention pour faire. Donc, les mutuelles disent la prévention, nous on est d'accord, on en pratique déjà beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en termes de prévention. Parce que la prévention, elle est intégrée dans les frais de gestion et non pas en termes de soins. Elle fait partie de frais de gestion de l'ordre de 18%. Hein. Oui, sauf qu'il y a un certain nombre d'imputations qui sont mises dans les frais de gestion, notamment toutes les actions de prévention, alors que ces actions de prévention devraient être considérées comme du soin. Ça fait partie des choses qui peuvent être là aussi avancées. Et donc, la prévention, ça coûte cher. Et là, l'État, ben, il doit y mettre les moyens en prévention. Il ne doit pas être que dans des déclarations d'intention. La prévention, ce n'est pas seulement que des actions auprès de comportements dits culpabilisants. Alors, il faut travailler sur les addictions. C'est indéniable, on y travaille. Mais on ne peut pas faire seulement de la prévention avec de l'affichage, attention si vous fumez, vous êtes responsable de votre santé, attention si vous consommez, etc. Les conditions sociales sont complètement édulcorées quand on réfléchit comme ça. Et on est sur un discours culpabilisateur qui amène après à dire, ah bah, attention, si c'est vous qui vous êtes mis dans une situation comme ça, on ne peut pas vous soigner correctement. Mais travailler en prévention, c'est bien avant. C'est une véritable éducation qui doit commencer très tôt. Et puis, elle compte se poursuivre à toutes les étapes de la vie. C'est ça la prévention.
Dans les propositions de M. Bayrou, il propose également de responsabiliser les entreprises sur la prévention des salariés, ce qui peut sonner comme quelque chose de positif.
Oui, bien sûr. Mais la prévention, c'est tous azimuts. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas être culpabilisant. Mais ça demande des moyens. Mais il y a eu des choses qui ont été modifiées il n'y a pas très longtemps. Ils ont supprimé les CHSCT.
Alors, les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une instance de santé au travail qui n'existe plus à présent, en effet, et qui a été remplacée par les CSE.
Mais qui n'ont plus les mêmes possibilités d'intervention. Donc ça limite aussi en matière de prévention. Donc la prévention des entreprises, oui, bien sûr. La prévention, elle doit faire partie de tous les domaines d'activité, mais c'est valable aussi en agriculture. On a parlé tout à l'heure de la loi du plomb, par exemple. Les premiers touchés, ce sont les agriculteurs. Oui, donc travaillons sur les axes de prévention. On est bien d'accord à tous azimuts.
Pour en revenir justement aux autres solutions possibles, ce que vous proposez, c'est l'arrêt de ces exemptions et exonérations des grandes entreprises. Il y a également ce qui est proposé par M. Bayrou, des luttes contre la fraude, et notamment des luttes contre la fraude fiscale. Qu'est-ce que vous pensez de cette lutte-là qu'il propose? Est-ce que c'est quelque chose de positif que vous pensez qu'il faudrait intensifier, justement, peut-être mettre le point dessus?
Il faut lutter contre la fraude, bien entendu. Mais il faut lutter de façon efficace et puis bien cibler qui sont les fraudeurs et d'où ça vient. Et bien sûr que les assurés qui fraudent, il faut les remettre dans le droit chemin et puis leur demander qu'ils remboursent ceux qu'ils ont fraudé. Mais ça reste, c'est quasiment marginal. Les fraudes qui se chiffrent par dizaines de millions ou par centaines de millions, c'est pas des assurés sociaux ou lambda qui le font. C'est que derrière, il y a des organisations. Alors, il y a beaucoup de professionnels qui le font, on le sait. Ceux-là, ils sont à sanctionner et puis on doit leur demander de rembourser. Et puis, il y a des organisations qui sont beaucoup plus massives. Donc, là aussi, il faut y travailler ensemble. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La sécurité sociale, les mutuelles doivent se rapprocher pour essayer de trouver, d'analyser plus finement comment sont faits les remboursements, comment sont établis les devis, par qui, comment faire les rapprochements nécessaires pour gagner. Oui, ça, il faut le faire, bien sûr. On est d'accord, là. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les regards soient plus croisés, qu'il y ait des groupes de travail qui soient ensemble entre Sécu et mutuelles. C'est vrai, on va y arriver. C'était difficile. au regard de la sécurité des fichiers. Si on sécurise justement l'utilisation des fichiers en garantissant que les fichiers seront bien toujours au même endroit, ne seront pas utilisés à d'autres fins, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver les moyens de faire ça. Oui.
Mais ça, c'est un travail en cours du coup que vous êtes en train
Oui, il y a des réflexions en cours. Ça fait partie des choses que soulignait Madame Vautrin en disant « Oui, on peut travailler ensemble. » Nous, bien sûr qu'on est d'accord là-dessus parce que c'est nous qui le demandons.
Alors, in fine, si on devait résumer notre échange, dans ce budget, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
C'est la financiarisation du système de santé et de protection sociale. C'est encore un élément qui vient mettre en difficulté le système de santé qui est le nôtre, qui avait été pensé par nos anciens et qui est fiable, qui reste toujours quelque chose d'actualité. Les mutuelles sont des complémentaires, la sécurité sociale, il faut lui demander faut lui donner les moyens de fonctionner comme c'était au départ. 80%, 20%, c'était ça qui était marqué. Hein. 80% pris en compte par la Sécu, 20% pris en compte par les mutuelles complémentaires. Je fais de la caricature un petit peu, mais c'est ça. Nous, on dit si on veut revenir à ça à minima, il faut donner les ressources nécessaires à la sécurité sociale pour fonctionner. Mais ça nécessite aujourd'hui une certaine remise à plat parce que il y a eu de plus en plus de transferts de la sécurité sociale vers les mutuelles ou les assurances complémentaires. Si on continue comme ça, la Sécu, doucement, elle va se réduire dans son champ de couverture initial.
Ce qui est déjà le cas.
Ça se réduit. Il ne faut pas que ça s'accentue. Donc, il faut y revenir. Donc, la population, elle a besoin d'une couverture sociale de haut niveau. Et nous sommes d'accord. Et nous opposons pas la Sécu à les mutuelles. Nous sommes complémentaires. Pourquoi il y a des mutuelles au-delà qu'elles étaient présentes avant la Sécu? Les assurés sociaux, ils se disent, tiens, ça, c'est pas couvert par la Sécu. Et si on mettait en place une mutuelle? Donc, ça reste une idée neuve, c'est ça que je veux mettre en avant, la solidarité. Mais une vraie solidarité, il faut que les riches y contribuent.
Avant de conclure, on peut peut-être rappeler que vous souhaiteriez vivement que les assurés et les adhérents des mutuelles se mobilisent auprès de vous.
Bien sûr, la mobilisation des citoyens, il faut qu'ils soutiennent les initiatives de leur mutuelle, de leur groupement mutualiste, de la mutualité française, de façon à faire à peser dans le débat. Aujourd'hui, le Parlement a tendance à, éviter les débats parlementaires. Sans mouvement populaire, sans soutien, ça sera difficile. Moi, je dirais que pour les assurés sociaux, ils doivent participer à la vie démocratique de leur mutuelle. Ils doivent exprimer leurs critiques, dire ce qu'ils pensent de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, de comment eux verraient les choses. Donc, participer aux assemblées, aux réunions d'adhérents, c'est la garantie d'avoir une bonne information et surtout d'avoir bien compris. Parce que la mutuelle, c'est une organisation démocratique avec un conseil d'administration élu. C'est important.
Et puis, on peut rappeler aussi un peu votre point de vue sur ce budget qui, selon vous, va peser de plus en plus sur vos
adhérents.
Il
est à combattre, le budget-là. C'est pas pour nous, on ne peut pas le voir autrement. C'est une véritable régression sociale tous azimuts, parce que là, on a parlé des mutuelles, mais quand on voit pour le Code du travail, il y a deux jours ou trois jours, l'ensemble des organisations syndicales initient une pétition. Je veux dire, c'est inédit. Moi, je suis un ancien syndicaliste, c'est la première fois que je vois ça. Toutes les organisations syndicales qui initient une pétition. Ils veulent toucher aux congés payés, ils veulent toucher aux retraites. Donc, c'est un budget, c'est un véritable budget de régression sociale. Ils accentuent, c'est insupportable.
Eh bien, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Rémi Charpie.
Je vous en prie.
Je le rappelle, vous êtes président de la Mutuelle de France Alpes du Sud. Merci beaucoup donc de nous avoir accordé ce temps-là, de nous avoir aussi tout expliqué en détail. Merci à vous.